Chapitre deuxième. Ce jour-là, on ne travailla plus. Les ouvriers restèrent étendus sur le gazon, contemplant l'admirable statue avec la satisfaction qu'un beau morceau de sculpture inspire à tout vrai Romain, mais sans gaspiller leur vin en cérémonie païenne. Dans l'après-midi, le comte fit une nouvelle visite à la Junon et ordonna de la transporter le lendemain au casino. Ce casino était un grand pavillon construit sur le modèle d'un temple ionique et qui s'élevait dans une partie du jardin où les ancêtres de Valério avaient souvent dû se réunir pour boire des sirops glacés et déguster de savants madrigaux. Il renfermait quelques fragments de sculptures antiques voilées par maintes toiles d'araignées, et il était assez vaste pour contenir le musée plus précieux dont je me plaisais à regarder la Junon comme le point de départ. On ne tarda pas à poser la belle déesse sur un cippe funéraire renversé, solide piédestal où elle dominait dans une attitude sereine. Le surveillant des fouilles, qui connaissait à fond tous les procédés de restauration, la frotta et la gratta avec un art mystérieux, enleva les taches laissées par la terre et doubla l'éclat de sa beauté. L'œuvre harmonieuse parut briller d'une fraîcheur et d'une pureté nouvelles. Sans sa main brisée, on n'eût pu s'imaginer qu'elle venait de recevoir le dernier coup de ciseau. Les amateurs de Rome commencèrent à parler de cette merveille. Au bout de 3 ou 4 jours, une demi-douzaine de conoscenti se mirent en route pour la voir. Je me trouvai là lorsque le premier de ces messieurs, un Allemand à lunettes bleues, un grand carton sous le bras, présenta sa requête au valet de chambre du comte. Ce dernier entendit la voix du solliciteur, alla à sa rencontre, et le toisa froidement des pieds à la tête. Signor comte, dit l'Allemand, sans autre préambule, votre Junon doit être une Proserpine. Je me fais fort de vous prouver. Je n'ai ni Junon ni Proserpine dont je tienne à discuter l'identité avec vous, interrompit Valério. Vous avez été mal renseigné.
Quelle indigne mystification, s'écria l'Allemand. Quoi, vous n'avez pas déterré une statue?
Aucune qui mérite l'attention d'un érudit tel que vous.
Mais vous avez sûrement découvert quelque chose.
La rumeur publique. La peste étouffe.
La rumeur publique, répliqua le comte d'un ton farouche.
Je n'ai rien à montrer. Rien, comprenez-vous? Soyez assez bon pour en prévenir vos amis.
La réponse était claire et nette. L'infortuné archéologue poussa un soupir et reprit le chemin du Capitole en secouant avec tristesse sa crinière jaunâtre.
Moi, je le plaignais. Je me permis d'adresser des remontrances à mon hôte.
Autant vaudrait que votre Junon fût encore sous terre, lui dis-je, si personne ne doit la voir.
Je la verrai, et cela suffit, répliqua-t-il, puis il ajouta aussi, en remarquant ma surprise. Son grand portefeuille m'agaçait. Il aurait voulu faire quelques hideux croquis.
Voilà qui me touche, dis-je, car je songeais aussi à prendre une petite esquisse.
Il se tut pendant une minute ou deux, puis se tourna vers moi, me saisit le bras, et répondit avec une gravité extraordinaire.
« Rendez-lui visite vers l'heure du crépuscule. Asseyez-vous en face d'elle, et contemplez-la à loisir. Je crois qu'ensuite, vous ne songerez plus à votre esquisse. Sinon, mon bon vieil ami, vous êtes le maître. » Je suivis son conseil, et comme ami, je renonçai à mon projet. Mais un artiste sera toujours un artiste, et au fond, je désirais vivement tenter un dessin. Des ordres conformes à ce que Camillo avait répondu aux visiteurs tudesques furent donnés aux gens de la villa, qui, avec la largeur de conscience et la sincérité dont sont doués les Italiens, plaignirent les curieux d'avoir été si grossièrement trompés. Je ne doute pas que, faute de mieux, ils n'aient su rendre la condoléance lucrative. Toute nouvelle fouille fut ajournée comme impliquant un affront pour l'incomparable Junon. On congédia les terrassiers, mais le petit explorateur continua de hanter le parc et de sonder le sol pour son propre plaisir. Un jour, il m'aborda avec sa grimace équivoque habituelle. « Pourriez-vous m'apprendre, signor, ce qu'est devenu la belle main de la Junon ?» me demanda-t-il à brûle-pourpoint et d'un ton mystérieux. « Je ne l'ai pas revue depuis le jour de la trouvaille, » répondis-je. « Je me souviens que lorsque je me suis éloigné, elle gisait sur l'herbe à côté de la tranchée. « Oui, à l'endroit où je l'avais déposée moi-même. » Ensuite, elle a disparu. Écho. Soupçonnes-tu un de tes hommes? Un pareil fragment vaut plus de scudi que la plupart d'entre eux n'en ont jamais vu.
Il y en a dans le nombre qui sont plus voleurs que les autres. Mais si j'accusais le pire de la bande, le comte se fâcherait.
Il doit pourtant attacher de la valeur à cette belle main. »
Le petit expert en exhumation regarda un instant autour de lui et cligna de l'œil.
« Il y attache tant de valeur qu'il l'a volée lui-même, » dit-il.
« Volée lui-même, quelle idée ! Après tout, la statue lui appartient. »
« Pas tant que cela. »
« Une aussi belle chose appartient un peu à tout le monde. Chacun a le droit de l'admirer.
Mais le comte la tient sous clé comme si c'était une image sacro-sainte de la Madone et veut être seul à la voir.
En somme, il n'y a pas de mal à cela, puisque la dame est en pierre.
Et que fait-il de cette main précieuse ? Il l'a enfermée dans un coffret d'argent. Il en fait une relique. »
Et le grotesque personnage s'éloigna en ricanant, me laissant fort intrigué. Si le comte n'aimait pas à montrer sa Junon, c'était là une conséquence assez naturelle de la joie que lui causait la possession d'un tel trésor. Il ne tarderait sans doute pas à ouvrir aux curieux les portes du casino, et en attendant, je devais me réjouir de voir qu'il y eut des limites à son apathie constitutionnelle. Cependant, les jours s'écoulèrent et sa joie ne devint pas plus communicative. Qu'il admirât sa déesse de marbre, je ne songeais pas à le lui reprocher. Cependant, était-ce une raison pour mépriser l'humanité ? On eût dit néanmoins qu'il se plaisait à établir entre elle et nous des comparaisons qui tournaient au détriment des simples mortels, sans en accepter sa charmante femme. Lorsque je cherchais à me persuader qu'il n'était ni plus ni moins aimable qu'autrefois, le visage de Marthe donnait un démenti à mon optimisme. Bien qu'elle ne se plaignît pas, son allure trahissait une touchante perplexité. Elle fixait souvent les yeux sur Valério avec une sorte de curiosité éplorée, comme si une surprise mêlée de commisération eût tenu tout ressentiment en échec. Naturellement, je ne pouvais m'enquérir de ce qui se passait entre eux dans l'intimité. Il ne se passait rien, je le devinais, et c'était là le malheur. Le comte, distrait et taciturne, évitait le regard de sa femme. Lorsque par hasard il remarquait que je le contemplais d'un air de reproche, ses yeux brillaient d'un éclat passager. Il semblait à moitié tenté de m'adresser un défi railleur et à demi disposé à justifier sa conduite. Si Marthe s'approchait de lui, il se détournait avec un frisson mal dissimulé. J'enrageais. Je me mis à haïr le comte et tout ce qui lui appartenait. J'avais mille fois raison. Pensais-je, un comte italien peut séduire l'œil, mais c'est une étoffe brûlée d'un mauvais usage. Parlez-moi d'un brave américain. Qui ne vous trompe pas comme ces mystérieux produits du vieux monde. Tout peintre que je suis, je ne conseillerais jamais une femme de choisir un mari pittoresque. La villa, avec ses ombres pourprées, ses jours éclatants, ses marbres muets, et son interminable panorama du mont Albano, cessa de m'attirer. Mes paysages ne valaient rien. Je voyais tout en lait. Je m'asseyais, je préparais ma palette, et il me semblait mêler de la boue avec mes couleurs. Je ne broyais que du noir, et un poids intolérable s'apesantissait sur mon cœur. Le comte m'apparaissait comme une efflorescence maladive des mauvais germes que l'histoire avait implantés dans sa race. Comment s'étonner qu'il se montrât cruel ? Chez les siens, la cruauté n'était-elle pas une tradition et le crime un exemple ? Les passions de ses ancêtres s'agitaient en aveugle au fond de sa nature inculte et demandaient à se faire jour. Quel lourd héritage, pensais-je, en évoquant la longue procession des aïeux du comte. Il fallait remonter jusqu'à l'époque dissolue de la Renaissance des arts et des vices, jusqu'aux ténèbres des premiers siècles chrétiens, jusqu'à l'origine des Valérius, dont le nom se rattache aux annales de la Rome primitive, pour reparaître à travers les pages les plus sombres de l'histoire. De telles archives sont à elles seules une malédiction. Et ma pauvre filleule se figurait que ce passé ne pèserait ni plus lourdement, ni moins gracieusement sur son existence que la plume qui ornait son chapeau. Il me serait difficile de préciser la durée de cette pénible situation. Je la trouvais d'autant plus longue que Marthe se montrait plus réservée et qu'il m'était impossible de lui offrir un mot de consolation. Une femme impressionnable, lorsqu'elle rencontre une déception dans le mariage, épuise ses propres ressources avant de demander conseil à autrui. Les préoccupations du comte, de quelque nature qu'elles fussent, la troublaient de plus en plus. Il allait et venait sans but apparent, avec une brusquerie nerveuse. Il faisait seul de longues promenades à cheval et jugeait rarement nécessaire de s'excuser auprès de sa femme. Pour qu'un homme devint aussi sombre sans motif avoué, il fallait qu'il fût très malheureux. Il m'avait toujours traité avec le respect que méritait ma barbe grise, et j'espérais que le jour viendrait où il me permettrait de sonder sa blessure.
Un soir, après avoir pris congé de ma filleule, je trouvai le comte dans le jardin, contemplant la lueur des étoiles, un Hermès niché dans un bosquet d'orangers. Je m'assis à son côté et je lui dis sans détour que sa conduite demandait une explication. Il tourna moitié la tête vers moi et son regard brilla un instant d'un sombre éclat. « Je comprends, » murmura-t-il, « vous me croyez fou. »«
Non, »
répliquai-je, « mais je vous crois malheureux. » Et quand on laisse un trop libre cours aux idées noires, notre pauvre cerveau est rudement éprouvé. Il demeura quelques minutes sans répondre, puis s'écria. « Je ne suis pas malheureux, je suis prodigieusement heureux. Vous ne pouvez vous imaginer quel plaisir j'éprouve à rester assis sur ce banc, à contempler ce vieil Hermès si maltraité par les siècles. Autrefois, il me faisait peur. Le froncement de ses sourcils me rappelait l'abbé qui m'enseignait le latin et qui me lançait des regards terribles lorsque j'estropiais Virgile. Aujourd'hui, il me semble le compagnon le plus affectueux et le plus jovial du monde, et il ne réveille en moi que d'agréables pensées. Il y a 2000 ans, il montrait ses grosses lèvres boudeuses dans le jardin de quelques vieux romains. Il a vu des pieds chaussés de sandales fouler le sol, et des têtes couronnées se pencher sur les coupes pleines. Il connaissait les anciennes cérémonies et l'ancien culte, les anciens latins et leurs dieux. Tandis que je le regarde, il me décrit tout ce passé. « Non, non, mon ami, je suis le plus heureux des mortels. » J'avais déclaré que je ne le croyais pas fou, mais je ne trouvais rien de rassurant dans cette bizarre rhapsodie. L'Hermès, par le plus grand des hasards, conservait un nez intact, et lorsque je songeais que ma chère petite comtesse était négligée en faveur de ce bloc inanimé, je me promis de revenir le lendemain armé en guerre et d'administrer au marbre païen un vigoureux coup de marteau qui le rendrait trop ridicule pour un tête-à-tête sentimental. En attendant, l'infatuation du comte n'était pas chose risible, et après avoir réfléchi, je l'engageai vivement à voir soit un prêtre, soit un médecin. Il poussa un éclat de rire formidable. « Un prêtre ? Que ferais-je d'un prêtre et que ferait-il de moi ? Je n'ai jamais trop aimé les prêtres, et je me sens moins disposé que jamais à les aimer. Un prêtre ? Répéta-t-il en posant la main sur mon bras, « ne m'envoyez pas un prêtre, si vous tenez à sa raison. Ma confession épouvanterait le pauvre homme, au point de le rendre fou. Quant à un médecin, je ne me suis jamais mieux porté. Et à moins que vous ne vouliez m'empoisonner par charité chrétienne, je vous engage à ne pas déranger les docteurs. » Décidément, il avait le cerveau malade, et pendant quelques jours, je n'eus pas le courage de retourner à la villa. Comment devais-je l'accueillir ? Quelles mesures prendre ? Que faire pour assurer le bonheur et sauvegarder la dignité de Marthe ? J'errai à travers les rues de Rome en me posant ces questions, et une après-midi je me trouvai dans le Panthéon. Afin d'échapper à une averse printanière, je m'étais réfugié dans le vaste temple que ces hôtels chrétiens n'ont qu'à moitié transformé en église. Aucun édifice romain ne conserve une empreinte plus profonde des siècles passés. Aucun ne démontre d'une façon plus claire que ces anciennes croyances où nous ne voyons plus que des fables monstrueuses ont été des réalités. L'immense dôme semble renvoyer à l'oreille un vague écho du culte oublié, comme un coquillage ramassé au bord de la mer nous apporte la rumeur de l'océan. 7 ou 8 personnes étaient éparpillées devant les divers autels. Une autre se tenait seule au centre de l'édifice, sous l'ouverture pratiquée dans la coupole. Dès que je m'approchais, je reconnus le comte. Il était planté là, les mains derrière le dos, contemplant les nuages chargés de pluie qui passaient au-dessus du grand œil de bœuf et regardant ensuite le cercle humide formé sur les dalles. Le pavage du Panthéon à cette époque était raboteux, disjoint et magnifiquement vieux. L'ample espace exposé aux intempéries des saisons restait aussi couvert de moisissures et de taches verdâtres que le sentier d'un jardin mal entretenu. Une herbe microscopique poussait dans les crevasses et scintillait sous les gouttes de pluie. Le grand courant d'air qui passait par la voûte ouverte dissipait l'odeur de l'encens ou des cierges, établissant ainsi des rapports plus directs entre les fidèles et la nature extérieure, ou du moins, le comte ressentait une impression de ce genre. Son visage révélait une extase indéfinissable, et il était trop absorbé dans sa contemplation pour s'apercevoir de ma présence. Au dehors, le soleil luttait bravement contre les nuages. Néanmoins, une pluie fine continuait à tomber et descendait sous forme de vapeur illuminée dans les pénombres du vieux sanctuaire. Valerio la suivait dans sa descente avec le regard fasciné d'un enfant
qui voit couler l'eau d'une fontaine. Il se détourna enfin pour se diriger vers un des hôtels, pressant une main sur son front. Il ne fit qu'une courte station, contempla un instant ce coin de l'église et tourna soudain sur lui-même pour gagner la place qu'il occupait d'abord. Ce ne fut qu'alors qu'il me vit. Il fut sans doute frappé du regard que je fixais sur lui. Il s'avança aussitôt vers moi et me tendit cordialement la main. Si je ne me trompe, il était en proie à une agitation nerveuse qu'il s'efforçait de maîtriser.
« C'est le plus beau monument de Rome, » dit-il. « Cela vaut mieux que Saint-Pierre. » « Croyez-vous que je le visite pour la première fois ?»«
Je laissais ce spectacle aux étrangers qui se promènent avec leur guide rouge sous le bras, lisent une description et se figurent qu'ils ont vu. Ah, il faut sentir pour comprendre la convenance et la beauté de ce grand dôme ouvert. Aujourd'hui, il n'y a que la pluie, le soleil et le vent qui pénètrent par là. Mais autrefois, les dieux et les déesses du paganisme venaient planer un instant sur cette ouverture, descendaient avec une lenteur majestueuse et prenaient place devant leur autel. Quelle procession, alors, qu'on pouvait la contempler avec les yeux de la foi, et que nous a-t-on donné à leur place ?
Il haussa les épaules avec un geste de pitié.
« Mon cher Camillo, lui dis-je avec douceur, vous devez tolérer les croyances d'autrui. Voudriez-vous donc rétablir l'Inquisition, et au profit de Jupiter et de Mercure ?
Ils ne toléreraient point mes croyances s'ils les connaissaient.
On a beaucoup parlé des persécutions païennes, mais les chrétiens aussi ont persécuté, et les anciennes divinités ont été adorées dans les caves et dans les bois aussi bien que les nouvelles. Elles n'en valaient pas moins pour cela. C'est dans les caves, dans les bois, dans les sources, dans les entrailles de la terre qu'elles habitaient. Et c'est là, et ici également, malgré toute l'illustration chrétienne, qu'un fils de la vieille Italie peut encore les retrouver. » Il m'en avait dit plus qu'il ne voulait, et son masque venait de tomber. Je le regardais fixement, et je ressentis cette subite effusion de pitié qu'inspire la vue d'un être irresponsable. Le secret qui le troublait m'était connu, et je me sentis soulagé. Étouffant mon envie de rire, je me contentai d'affecter un air bénévole. Il me lança un regard soupçonneux, comme pour s'assurer jusqu'à quel point il s'était trahi, et ce regard m'apprit, je ne sais trop comment, qu'il avait une conscience sur laquelle on pouvait agir. Dans ma reconnaissance, j'étais prêt à invoquer toutes les divinités qu'il lui plairait d'invoquer. « Prenez garde, lui dis-je, si ce sacristain vous entendait. » Et passant mon bras sous le sien, je l'emmenai hors de l'église. J'étais effrayé et indigné. Cependant, cet aveu m'amusait. Le comte passait à l'état de phénomène, et les phénomènes m'ont toujours intéressé. Durant le reste de la journée, je ne songeais qu'à l'étrange indélébilité des caractères distinctifs d'une race. J'avais qualifié Valerio de jeune latin, plus latin en réalité que je ne l'avais supposé. L'heure de la discrétion était passée. Le lendemain, je parlais à ma filleule. Elle espérait, depuis quelque temps, je crois, que je l'aiderais à soulager son cœur, car elle fondit en larmes et m'avoua qu'elle se regardait comme la plus malheureuse des femmes. Tout d'abord, me dit-elle, je me figurais que je me trompais, que ce n'était pas son amour à lui qui diminuait, mais mon exigence à moi qui croissait. Tout à coup, j'ai senti mon cœur se glacer, convaincu qu'il ne m'aimait plus et qu'un obstacle surgissait entre nous. Ce qui m'embarrassait, c'était l'absence de toute cause, car je ne lui avais donné aucun motif de plainte, et rien n'annonçait qu'il y eût une autre femme dans le cas. Je me suis mis à l'esprit à la torture pour découvrir en quoi j'ai pu lui déplaire. Et pourtant, il se comporte un homme trop vivement offensé pour se plaindre. Il ne m'adresse ni un mot de blâme, ni un regard de reproche. Il a tout simplement renoncé à moi. J'ai cessé d'exister pour lui. Sa voix tremblait, et elle avait si bien l'air de me supplier de lui venir en aide que je fus sur le point de lui annoncer que j'avais résolu l'énigme et que nous pouvions considérer la victoire comme à moitié remportée. Je craignais de la trouver incrédule. Ma solution était si absurde que je résolus d'attendre que j'eusse des preuves convaincantes à lui fournir. Je continuai donc à surveiller le comte de façon à ne pas exciter ses soupçons, et cela avec une vigilance que ma curiosité rendait singulièrement tenace. Je me remis à ma peinture, ne perdant aucun prétexte pour rôder autour du casino. Le comte cherchait évidemment à se rappeler ce qui lui était échappé lors de notre rencontre au Panthéon. Je lisais sur son visage assombri qu'il me pardonnait à moitié son indiscrétion. De temps à autre, il me lançait un regard où la méfiance semblait lutter contre l'envie de s'expliquer. Je me sentais tout disposé à provoquer un aveu, mais le cas était des plus embarrassants. Au fond, ses illusions m'inspiraient une sorte de tendre respect. Je lui enviais la force de son imagination, et je fermais parfois les yeux, avec la vague idée que dès que je les rouvrirais, je verrais Apollon accorder paresseusement sa lyre sous les arbres qui me faisaient face, ou Diane accourir le long de l'avenue des Houx. Le plus souvent, mon hôte me semblait tout simplement un malheureux jeune homme, affligé d'un torticolis moral qu'il importait de guérir au plus vite. Cependant, si leur maître devait avoir quelque rapport avec la maladie, il faudrait un pharmacien bien ingénieux pour le composer. Un soir, ayant souhaité bonne nuit à Marthe, je me mis en route selon mon habitude pour regagner mon logis. 5 minutes après avoir quitté la villa, je m'aperçus que j'avais oublié mon lorgnon. Je me rappelais qu'en peignant, j'avais brisé le cordon et que je l'avais accroché à une branche. Comme je me proposais de lire le journal du soir au café Gréco, il ne me restait d'autre alternative que de retourner sur mes pas. Je découvris sans peine ce que je cherchais, et je m'attardai un moment à contempler le curieux aspect de l'endroit que j'avais étudié en plein jour. La nuit était magnifique et chargée des parfums d'un printemps romain. La lune répandait déjà ses lueurs argentées sur les lourdes masses d'ombre. Tout en observant ses effets, je poursuivis ma promenade et je me trouvai à l'improviste en vue du casino. Au même instant, la lune, qu'un nuage venait de voiler, inonda de sa pâle clarté une petite statue qui ornait le bas de cette construction d'une originalité pas trop recherchée. Je me souvins qu'il y avait là, tout près de moi, une statue autrement belle, et que ce genre d'éclairage ne pouvait manquer d'être très avantageux à la Junon emprisonnée. La porte du casino, comme à l'ordinaire, était fermée à clé. Mais Diane illuminait si généreusement les fenêtres de l'édifice que ma curiosité devint aussi obstinée qu'inventive. Je traînai plusieurs sièges près du mur et je pus grimper assez haut pour que mes yeux se trouvassent au niveau d'une des croisées. Cédant à un premier effort, les charnières tournèrent sur leurs gonds et je contemplai à mon aise ce que je voulais voir, Junon visitée par Diane. L'admirable statue, baignée dans un flot radieux, brillait d'un doux éclat qui la rendait plus divinement belle. Si en plein soleil son teint suggérait l'idée de l'or terni, elle avait l'air en ce moment d'être en argent. L'effet était presque terrible. Comment croire qu'une beauté aussi éloquente soit inanimée? Telle fut ma première impression. Je vous laisse à penser si la seconde dut être moins saisissante. À peu de distance du piédestal de la statue, juste en dehors de la lumière qui répandait une auréole autour de la Junon, je vis tout à coup une figure prosternée dans l'attitude d'une profonde adoration. Il me serait difficile d'exprimer à quel point elle compléta l'effet produit sur moi. Elle semblait proclamer ce magnifique chef-d'œuvre une déesse et donner raison à l'orgueil triomphant qui éclatait sous son masque de pierre. Je n'ai pas besoin de dire que cet adorateur n'était autre que le comte. Ses yeux étaient fermés. Bientôt, les rayons de la lune vinrent donner un ton livide à ses traits, déjà pâlis par la fatigue. Il avait rendu visite à Junon sous l'empire d'une étrange hallucination. Épuisé soit pour avoir résisté, soit pour avoir trop cédé à sa ferveur païenne, il était tombé en syncope. Cependant, sa respiration égale m'annonça qu'il n'y avait pas lieu de m'alarmer. En effet, il ne tarda pas à sortir de sa léthargie, poussa une exclamation inintelligible, regarda autour de lui comme quelqu'un qui sort d'un rêve. Puis, reconnaissant l'endroit où il se trouvait, il se leva, se tint un instant immobile, les yeux fixés sur la statue resplendissante, avec une expression où je crus lire qu'il protestait contre le charme qu'il subissait. Enfin, il laissa échapper des paroles sans suite, dont je ne pus saisir le sens, et après avoir hésité et poussé un gémissement, il se dirigea avec lenteur vers la porte. Je descendis de mon poste d'observation aussi vite, aussi peu bruyamment que possible, et je passai derrière le casino. À peine descendu, j'entendis le bruit de la clé dans la serrure et celui des pas du comte qui s'éloignait. Le lendemain, lorsque je rencontrai le petit gnome dans le parc, je levai le doigt avec un geste que je croyais plein de menaces. Loin de paraître intimidé, il se mit à ricaner ainsi qu'aurait pu le faire un de ces diablotins auxquels je me plaisais à le comparer, et tortilla sa moustache. Si tu t'avises encore de creuser les trous ici, lui dis-je, on te jettera dans la tranchée la plus profonde et on entassera sur toi la terre que tu auras enlevée. Nous avons assez de tes statues. Cette Junon nous a menés loin. Il éclata de rire. Je m'y attendais bien un peu, s'écria-t-il. À quoi ? À voir le comte lui adresser ses prières. Bonté du ciel ! Le cas est-il donc si commun ? Au contraire. Il est très rare. Mais il y a si longtemps que je remue ce monstrueux héritage de vieillerie que j'ai appris une foule de choses. Je sais que d'anciennes reliques peuvent opérer des miracles modernes. Nous avons tous en nous un germe païen. Je ne parle pas pour vous, illustrissime étranger. Et les divinités d'autrefois retrouvent parfois des adorateurs. L'esprit du passé respire encore ici, et le seigneur comte en a subi l'influence. C'est un excellent homme, mais entre nous, c'est un chrétien impossible. Et le singulier personnage s'abandonna de nouveau à une hilarité inconvenante. « Puisque tu vois si clair, lui dis-je, il était de ton devoir de me prévenir. J'aurais envoyé promener tes ouvriers. La Junon est une si belle œuvre. Que le diable emporte sa beauté. Peux-tu me dire ce qu'est devenue celle de la comtesse ? Pour rivaliser avec ta Junon, elle se transforme elle-même en statue. » Le gnome haussa les épaules. « Oui, mais la Junon vaut 50 000 scudi. « J'en donnerai 100 000 pour la voie détruite, répliquai-je. Peut-être, après tout, aurais-je à te prier de creuser un autre trou. À votre service, répondit-il avec un profond salut, et nous nous séparâmes. Deux jours plus tard, je dînais à la villa, et je rencontrai le comte face à face pour la première fois depuis sa syncope dans le casino. Il paraissait encore faible, et restait plongé dans une morne rêverie. Je m'imaginais que les sentiers de la nouvelle foi n'étaient pas tous semés de roses, et que la Junon devenait de jour en jour une maîtresse plus exigeante. Le dîner à peine terminé, il se leva de table et alla prendre son chapeau. Il passa près de Marthe et lui lança un de ses regards pleins d'une vague supplication qu'il m'avait souvent adressée. Il l'attira près de lui avec une sorte d'ardeur irritée, puis, au lieu de l'embrasser, s'éloigna à grands pas. L'occasion était propice et tout nouveau retard inutile. « Ce que j'ai à t'annoncer est presque incroyable, » dis-je à la comtesse. « Mais peut-être ne trouveras-tu pas la chose aussi terrible que tu le craignais. »« Il y a une femme dans le cas. Ta rivale est la Junon. »« Le comte, comment dirais-je ? Le comte l'a prise au sérieux. » Marthe garda le silence. Au bout d'une minute, elle posa la main sur mon bras. Et je compris qu'il avait déjà à moitié deviné ce que je croyais lui apprendre. « Tu admirais son antique simplicité ? » repris-je. « Eh bien, tu vois jusqu'où elle va. Il est retourné à la foi de ses pères. Cette statue impérieuse, endormie pendant des siècles, s'est réveillée pour animer l'ancienne croyance. Voilà, Valerio, plongé dans cette mythologie qui t'a causé tant d'ennuis à l'école. En un mot, ma chère enfant, ton mari est un païen. » « Je présume que tu seras affreusement choquée, » répliqua-t-elle, « si je te dis que peu m'importe sa foi, pourvu qu'il la partage avec moi. Je croirai à Junon s'il le veut. Ce n'est pas là ce qui me tourmente. Que mon mari redevienne pour moi lui-même. Ce qui me désole, c'est l'abîme d'indifférence ouvert entre nous. Sa Junon est la réalité, je suis la fiction. » « Après la fable, la morale, » repris-je. « Le pauvre garçon n'a succombé qu'à moitié. » L'autre moitié proteste. Il doit sentir vaguement que tu es un fruit du temps plus parfait qu'aucune de ces dames pour qui Junon était une terreur et Vénus un exemple. Il a traversé l'Achéron, mais il t'abandonne sur la rive opposée comme un gage confié au présent. Son gage, il faudra qu'il vienne le réclamer. Il nous a prouvé qu'il est un descendant des Valerius, et bien, nous ferons de lui le dernier des Valerius, et néanmoins, son décès laissera ton Valerio en bonne santé. » Je m'exprimais avec une confiance absolue, car il me semblait que si le comte devait être ramené, ce serait par la certitude que son escapade n'avait pas poussé sa femme à le haïr. Nous nous entretînmes longuement, et je réussis à rendre un peu d'espoir à ma filleule, qui, avant que je m'éloignasse, voulut sortir pour voir la Junon. elle m'a fait peur dès le premier jour, me dit-elle, et je ne l'ai pas revue depuis qu'on l'a installée au casino. Peut-être apprendrai-je quelque chose d'elle, peut-être devinerai-je combien elle l'a charmée. J'hésitais un moment, car je craignais de troubler un tête-à-tête de Valerio. Puis, comme je vis que ma filleule partageait mes craintes et qu'elle voulait remporter la victoire en affrontant le danger, je lui offris le bras. Le ciel était nuageux, et cette fois la triomphante déesse ne pourrait briller que de son propre éclat. Arrivé près du casino, je m'aperçus que la porte était entr'ouverte et qu'une lumière brûlait à l'intérieur. Une lampe suspendue devant la déesse nous permit de constater que la salle était vide. En face de la statue se dressait un autel improvisé à l'aide d'un fragment de marbre antique enrichi d'une inscription grecque illisible. Nous aurions vraiment pu nous croire dans un temple païen, et nous contemplâmes avec une muette admiration la beauté de cette Junon impassible. Notre recueillement aurait dû être augmenté, je le suppose, par un curieux reflet rougeâtre que renvoyait la surface de l'autel peu élevée. Le résultat fut tout autre, un seul coup d'œil suffit pour nous apprendre que nous voyions briller une petite mare de sang. Ma compagne détourna les yeux en poussant un cri d'horreur. Une foule de conjectures hideuses m'assaillirent, et je sentis mon cœur se soulever, mais je me rappelais qu'il y a sang et sang, et que les Latins sont postérieurs aux cannibales. Sois-en convaincu, dis-je à ma filleule, il ne s'agit que d'un agneau, d'une chèvre ou d'un veau en bas âge. Mais ces quelques gouttes cramoisies suffisaient pour irriter les nerfs et blesser la conscience de Marthe. Elle regagna la maison dans un triste état d'agitation. Je ne la quittais pas, et je parvins à lui rendre un peu de calme. Le comte n'était pas rentré, et à chaque instant nous nous attendions à le voir paraître. Je fumais mon cigare d'un air tranquille, cachant de mon mieux mes inquiétudes secrètes. Les heures s'écoulaient, et le comte ne se montrait pas. Je cherchais à expliquer sa longue absence d'une façon rassurante. Les gouttes de sang qui rougissent cet autel, pensais-je, doivent avoir dissipé son illusion. Le sacrifice a été une heureuse nécessité, car au fond, Valerio est trop doux pour ne pas s'adresser des reproches, pour ne pas abhorrer une idole d'une exigence aussi cruelle. Il erre à travers les rues comme une âme en peine, et va nous revenir guéri et repentant. Certes, j'aurais accepté plus aisément ces hypothèses si j'avais pu entendre dans le vestibule le pas du coupable. Vers l'aube, le scepticisme menaça de m'envahir, et je me mis à me promener fiévreusement sous le portique. Je m'y trouvais à peine depuis quelques minutes lorsque je vis le comte traverser la pelouse d'un pas lourd. Ses traits fatigués annonçaient qu'il avait marché toute la nuit sans que son esprit se fût plus reposé que son corps. Arrivé près de moi, il s'arrêta avant de pénétrer dans la maison et me tendit la main sans prononcer un mot. Je la serrai dans une étreinte cordiale. Son pouls désordonné me révéla l'agitation qu'il désirait cacher. « Ne voulez-vous pas voir Marthe ?» lui demandai-je. Il passa la main sur ses yeux. « Non, pas maintenant, plus tard, » répliqua-t-il. Ce fut une déception pour moi, mais je persuadai à ma filleule que Valerio avait rompu le charme de la sorcière païenne. Pauvre petite, elle ne demandait pas mieux que de me croire. Je regagnai mon logis. Une affaire importante m'empêcha de retourner à la villa avant l'heure du crépuscule. On me dit que je rencontrerais la comtesse au jardin. Je la cherchai d'abord avec discrétion, de peur de troubler les épanchements d'une réconciliation. Ne voyant pas ma filleule, je me dirigeai vers le casino et je me trouvai soudain nez à nez avec le petit gnome. « Votre Excellence aurait-elle par hasard sur elle une vingtaine de mètres de bonne corde ?» me demanda-t-il avec le plus grand sérieux. « Veux-tu donc pendre quelqu'un pour le punir des maux que tu as causés ?» répliquai-je. « Il s'agit de choses pendables, je vous en réponds. La comtesse a donné des ordres. Vous la trouverez dans le casino. Elle a beau avoir la voix douce, elle sait se faire obéir. » À la porte du casino se tenaient 5 ou 6 travailleurs attachés au domaine. Ils avaient l'air aussi vaguement solennels que les serviteurs qui suivent le convoi d'un défunt de première classe. Les paroles de la comtesse et son attitude impérieuse m'expliquèrent l'énigme posée par l'entrepreneur d'exhumation. les yeux fixés sur la Junon qui, renversée de son piédestal, gisait sur un brancard improvisé, elle me montra du doigt la statue et me dit
« Elle est belle, elle est majestueuse, n'importe, il faut qu'elle rentre sous terre. »
Et son geste passionné semblait désigner une fosse ouverte. J'étais ravi, mais je jugeais plus digne de me caresser le menton d'un air sagace.
« Elle vaut 50 000 scudi, » dis-je.
Ma filleule secoua tristement la tête.
« Si nous la vendions au pape, pour distribuer l'argent aux pauvres, » répliqua-t-elle, « cela ne nous servira à rien. Il faut qu'elle rentre dans son trou, il le faut.
Nous n'avons d'autre alternative que d'étouffer sa beauté sous un amas de terre.
Oui, c'est horrible. Et il me semble presque que nous allons l'enterrer vivante.
Mais hier, lorsque Camillo a refusé de me voir, j'ai compris qu'il ne me reviendra pas tant qu'elle restera sur terre. Pour rompre complètement le charme, il faut enfouir à jamais la Junon.
Puisse le ciel récompenser ce sacrifice, lui dis-je.
Quand mon petit gnome revint, il ne ressemblait guère à un envoyé céleste. Seulement, il était adroit, ce qui pour le moment le rendait fort utile. De temps à autre, il laissait échapper une sorte de lamentation étouffée, comme pour protester contre la cruauté de la comtesse. Mais je le vis examiner la statue détrônée avec une joie contenue et un ricanement qui excitait la surprise des travailleurs. Il arriva muni d'une ample provision de cordes. Ses aides ayant enlevé le brancard, il les mena vers le trou d'où l'on avait tiré la statue et que l'on s'était abstenu de combler en vue de fouilles ultérieures. Lorsque les porteurs atteignirent le bord de la fosse, la nuit tombait, et l'obscurité voilait sous son linceul la beauté de la victime de marbre. Personne ne proféra une parole. Chacun éprouvait des regrets, sinon de la honte. Quelle que fût notre excuse, la cérémonie semblait monstrueusement profane. Enfin, les cordes furent ajustées et la Junon descendit avec lenteur dans sa tombe. La comtesse arracha quelques fleurs d'un buisson voisin et les jeta sur la poitrine de la déesse.
« Repose en paix, » dit-elle, « et à tout jamais. »«
À tout jamais, » répéta une voix. Nous nous retournâmes. Le comte, le regard fixe, les bras croisés, s'approchait de l'excavation. Je me plaçai entre ma filleule et son mari, redoutant les terribles conséquences que pouvait provoquer le coup d'état de Marthe. La jeune femme m'écarta doucement et se plaça devant le comte.
Qui donc a ordonné cela ? Demanda-t-il d'un ton de menace en se tournant de mon côté.
Moi, répondit Marthe d'une voix résolue.
Le comte demeura un instant pensif, puis son regard enveloppa la charmante créature qu'il oubliait depuis plus d'un mois. Ses traits se détendirent. Il poussa un long soupir et lui saisit brusquement les mains.
« Ah, cara mia, » dit-il, « tu me sauves. »«
J'étais jalouse, » répliqua-t-elle.
« Et moi j'étais fou.
Qu'elle dorme en paix, ta ribalde d'un jour. Elle est le passé. Tu es le présent et l'avenir. »
Ainsi s'achève le dernier des Valérius de Henry James.